Vous écoutez, on lit pour vous.
On va tous mourir, et c'est très bien comme ça, un texte de Marissa Grosgué, paru le 22 février 2026 dans la presse. Se réconcilier avec l'inévitabilité de notre propre mort semble tout indiquer pour vivre une vie plus sereine et heureuse. Bien que la plupart de mes souvenirs d'enfance se soient évaporés, il y en a un qui est resté bien ancré en moi et auquel je repense souvent, le jour où j'ai appris que tout le monde meurt. J'étais en maternelle. Mon grand-père venait de mourir et mes parents ont tenté de m'expliquer, comme on le fait avec une enfant de 5 ans, ce que ça voulait dire. Et puis, en m'amenant à l'école ce jour-là, mon père m'a appris que lui aussi, et ma mère également, allait me quitter un jour. Pour toujours. Drama queen, dès mon plus jeune âge. Je me souviens m'être isolée dans notre jardin à mon retour de l'école pour pleurer la tragédie qui venait de s'abattre sur moi. Tous les gens, les enfants surtout, quand ils réalisent que leurs parents ne seront pas là pour toujours, ressentent un vide et une angoisse extrême, explique Alain Voisard, professeur au département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Mais cette détresse ne doit pas perdurer si l'on veut être vraiment heureux. Et plusieurs approches philosophiques tentent d'apprivoiser le concept de la mort. C'est essentiel. Pour vivre notre vie pleinement, il faut se réconcilier avec notre propre finitude, dit-il. Par où commencer, donc, pour faire de la mort autre chose qu'une angoisse? Tout dépend à qui on s'adresse. Les principaux philosophes antiques qui parlent de l'acceptation de la mort sont Platon, les stoïciens et les épicuriens, indique Isabelle Chouinard, elle aussi professeure de philosophie à l'UQAM. Une de leurs préoccupations majeures est de nous délivrer de la crainte de la mort, car ils considèrent que cette libération est la condition d'une vie bonne et heureuse. Pour Platon, qui consacre un dialogue entier au thème de la mort dans le Phédon, où il relate les derniers moments de Socrate avant qu'il boive la ciguë, il n'y a aucune raison de craindre la mort. Il faut même se réjouir de sa venue. Selon lui, l'âme et le corps sont dissociables et la mort n'est que la séparation des deux. Or, le corps nous fait appréhender le monde par l'intermédiaire des sens. Alors, il est mieux d'en être libéré, explique Isabelle Chouinard. Les croyances anciennes ont pu traverser le temps jusqu'à certains d'entre nous qui trouvent du réconfort dans l'idée que l'âme n'a pas besoin du corps, comme les religions modernes le décrivent aussi. L'approche stoïque, basée sur l'idée d'un plan divin sur lequel nous n'avons aucun contrôle, nous mène à un autre genre de réflexion. Que le plan soit divin ou pas, il est vrai que rien que l'on puisse faire ne nous permettra d'éviter la mort. L'accepter est ainsi la réaction la plus bénéfique possible. Considérer la mort comme un mal à éviter entraîne de mauvaises décisions et toutes sortes d'émotions néfastes comme la peur et l'anxiété, explique Isabelle Chouinard. À quoi bon être immortel? Simone de Beauvoir, dans « Tous les hommes sont mortels », utilise son personnage Raymond Fosca pour explorer le fardeau de l'immortalité. L'autrice dépeint la vie éternelle comme une malédiction, une condamnation à l'ennui et à la solitude. Et son personnage réalise que c'est la finitude de la vie qui lui donne sa valeur. En ce sens, Alain Voisard amène une réflexion qui m'a aidé à apaiser les tourments de la jeune version de moi en maternelle qui ne savait que faire d'une information aussi cruelle que celle de notre mort. Selon lui, c'est une chimère de penser que l'on pourrait souhaiter une vie éternelle. Car si on craint la mort, c'est que l'on souhaiterait vivre pour toujours, repousser la fin. Mais cela n'a rien de souhaitable. affirme-t-il. D'abord, parce qu'il est difficile de conceptualiser à quel moment commencerait cette vie éternelle. Une adolescence qui dure l'éternité? Une vieillesse qui s'étend à l'infini? Ces options semblent plutôt repoussantes. Et puis, une vie qui dépasse un certain seuil n'est pas désirable, dit Alain Voisard, pour la simple et bonne raison que c'est parce qu'elle a une fin que notre existence a un sens, comme l'a constaté Raymond Fosca. Alors, bien sûr, de nombreux moyens médicaux peuvent prolonger la vie du mieux possible, la rendre agréable par la même occasion. Mais après, veut-on vivre jusqu'à 110, 120, 130 ans? Et pourquoi faire? Ainsi, faire la paix avec la mort, profiter de la vie en sachant qu'elle est éphémère, est ce qui a le plus de sens. Je pense que si les philosophes grecs ont autant insisté pour nous convaincre d'accepter la mort, c'est qu'il s'agit d'une crainte extrêmement tenace, dont il faut absolument s'affranchir, explique Isabelle Chouinard. Selon eux, la récompense de cet effort est une vie complètement transformée, sans toutes les distractions qui découlent de la crainte de la mort. Une vie orientée uniquement vers ce qui compte le plus, c'est-à-dire le bonheur. C'était « On va tous mourir » et c'est très bien comme ça, un texte de Marissa Grogué, paru le 22 février 2026 dans la presse.
Capter la neige pour mieux résister aux sécheresses. Un texte de Alexis Riopel, paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir. Plutôt que de combattre la neige, en faire une alliée. Voilà l'ambition de deux hommes qui, début janvier, discutent au milieu d'un champ à Sainte-Luce, au Bas-Saint-Laurent. Ils chaussent des raquettes, même si le couvert de neige est plutôt mince, sans cesse balayé par le vigoureux vent du fleuve que très peu d'obstacles ralentissent sur cette grande terre cultivée. Très peu d'obstacles, mais pas aucun. 10 curieuses structures en bois, hautes d'environ 2 mètres, se dressent dans le champ. Il s'agit de brise-vents amovibles, installés ici en novembre. Leur rôle? Favoriser l'accumulation de neige au sol. Au printemps, on les retirera, ce qui laissera le champ libre à la ferme Chénard, qui donne gracieusement accès à sa terre en hiver. En aval de ces chevalets s'étirent de longues langues nivales. L'un des deux hommes bondit sur cette masse blanche. « Sous mes pieds, il y a 300 litres d'eau par mètre cube », s'exclame Louis Drainville qui, avec son entreprise de consultation en agroécologie Terre-Eau et son collègue Yvon Jolivet, aide Sainte-Luce depuis plus d'une décennie à gérer ses problèmes d'eau potable. De son bâton de marche, M. Jolivet, un spécialiste de microclimatologie, désigne l'Ouest. Les vents de tempête viennent de par là, et ce sont eux qui charrient le plus de neige, affirme-t-il. Plus loin, des arbustes et un marécage implantés par Terre-Eau retiennent un peu de flocons, mais la vaste étendue agricole ressemble néanmoins pour l'essentiel à un désert de neige. La municipalité de Sainte-Luce, 2800 habitants, connue pour sa superbe plage sur le Saint-Laurent, tire son eau potable de la nappe phréatique. Ses puits de surface sont nourris par un aquifère bien délimité, caché sous des terres agricoles qui totalisent un peu plus de 200 hectares. Autant dire que cette zone de captage est cruciale pour l'alimentation en or bleu de la municipalité. Tout ça, c'est la coulée, explique M. Drainville en désignant un large territoire, grand comme 150 terrains de soccer, où l'on cultive du blé, de l'avoine, du soya et du foin. Quand une goutte s'infiltre à l'extrémité de la zone de captage, elle commence un périple de 500 jours sous terre, périple qui se conclut dans le robinet des citoyens. Et La seule manière d'accumuler de l'eau dans la nappe, c'est la neige, ajoute celui qui est agronome et biologiste. Il est bien établi que la recharge des nappes phréatiques au Québec survient principalement au printemps, quand la neige accumulée durant l'hiver fond et s'infiltre dans un sol qui dégèle. En été, quand le soleil plombe et que les plantes poussent, l'évapotranspiration renvoie la majeure partie de l'eau de pluie dans l'atmosphère avant qu'elle ne percole vers l'aquifère. À Sainte-Luce, ces considérations ne sont pas que théoriques. La recharge d'eau souterraine est fragile. Ces dernières années, on constate une baisse du niveau de la nappe phréatique, relève Jean Robidoux, le fonctionnaire de la municipalité responsable de l'eau. Les causes sont multiples. Le climat qui change, la culture du foin qui recule, le foin favorise le captage de la neige et la population qui augmente. Et dans les prochaines décennies, l'épaisseur moyenne du couvert de neige va continuer de diminuer dans la moitié méridionale du Québec. Pour l'instant, la municipalité a évité la catastrophe, mais chaque sécheresse donne des sueurs froides à M. Robidoux. La recharge printanière est très variable d'une saison à l'autre, et avec les changements climatiques, on ne peut pas prévoir l'avenir, dit celui qui s'apprête à commander une étude visant à déterminer si la municipalité devrait freiner son développement pour éviter de manquer d'eau potable. Faire école. Ce problème n'est pas unique à Sainte-Luce. Les sécheresses des dernières années mettent à mal les approvisionnements en eau potable un peu partout au Québec. À Saint-Alexandre, 2700 habitants, en Montérégie, la municipalité a dû se faire ravitailler par une cinquantaine de camions-citernes d'eau l'été dernier pour compenser la faible alimentation de ses puits de surface. « Nos puits arrivaient à leur limite », raconte le maire Yves Barrette. En octobre 2024, l'équipe de M. Barrette a eu vent des efforts de captation de la neige réalisés à Sainte-Luce. Elle a tout de suite décidé d'installer 300 mètres de clôture brise-vent près de ses puits de surface. « On veut conserver le plus de neige possible », lance le maire, qui voit dans cette approche beaucoup de potentiel et peu de désagréments pour les cultivateurs. Les agriculteurs sont souvent réticents à implanter de véritables haies qui retiennent aussi bien la neige que les brise-vents artificiels, sinon mieux, en plus de réduire l'érosion des sols, car les arbres amputent leur superficie cultivable et gênent le passage de leur machinerie. Les deux municipalités ne pensent pas que les brise-vents seront une panacée. Elles travaillent aussi sur d'autres fronts. Réduire la consommation d'eau des citoyens, avec le rachat de vieilles toilettes gourmandes en eau, renaturaliser certaines terres, aménager de nouveaux réservoirs artificiels, envisager l'installation de puits supplémentaires, etc. Certaines de ces solutions coûtent des millions. Mais une question décisive demeure. À quel point les brise-vents amovibles peuvent-ils faire une différence notable? Messieurs Drainville et Jolivet mènent des expériences à Sainte-Luce depuis 2018. Durant deux hivers, ils ont déployé 180 mètres de clôture brise-vent. L'excédent de neige accumulé contenait en moyenne 1 million de litres d'eau, l'équivalent de 13 heures de consommation municipale ou d'une trentaine de camions-citernes. La preuve de concept, bien que modeste, a séduit la municipalité. En octobre 2024, elle a octroyé un financement à Terre Eau pour lancer un projet de recherche avec l'Université du Québec à Rimouski. Grâce à l'argent de la municipalité, un étudiant à la maîtrise sera recruté pour étudier l'effet des brise-vents grâce notamment à des données satellitaires. Si les résultats sont concluants, Terre Eau rêve de bâtir un parc de haies brise-vent amovibles au fond de la zone de captage. Des centaines de structures en bois seraient posées là chaque automne et retirées chaque printemps. Louis Drainville est convaincu que, au bénéfice des campagnes du Québec, cette réconciliation avec la neige gagnerait à se généraliser. C'était Capter la neige pour mieux résister aux sécheresses, un texte de Alexis Riopel, paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir.
Un chemin forestier détruit en partie une forêt ancienne qui pourrait devenir une aire protégée. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 18 février 2026 dans Le Devoir. Face à l'indignation de citoyens de la Mauricie, le gouvernement caquiste a accepté de reporter des coupes prévues dans une petite forêt qualifiée d'écosystème exceptionnel et qui pourrait devenir une aire protégée. Il a toutefois permis à une entreprise de détruire une partie de cet écosystème pour construire un chemin qui lui permet d'aller couper une autre forêt située tout près et qui avait été ciblée pour la création d'une réserve de biodiversité. La forêt ancienne des Grands Lacs, Grand Bois, est une zone d'à peine 7 km carrés située sur le territoire de la MRC de Mekinac, au nord-est de Shawinigan. Malgré l'activité forestière industrielle dans la région, cette forêt comprenant des arbres de plus de 200 ans en moyenne, mais aussi des espèces fauniques et floristiques en péril, a toujours été préservée. Dans le cadre de l'appel à projet lancé en 2024 par le gouvernement pour créer des aires protégées au Québec, des citoyens ont proposé de protéger cette forêt. Leur proposition, appuyée par les élus locaux, est d'ailleurs soumise à un processus de consultation. Il s'agit d'une étape cruciale en vue de protéger cet écosystème exceptionnel, souligne l'ingénieur forestier Louis Bélanger, professeur retraité de la Faculté de foresterie, géographie et géomatique de l'Université Laval. Des coupes forestières avaient, malgré tout, été prévues au cœur de la forêt Grand Bois jusqu'à ce que la mobilisation de citoyens de la région incite le gouvernement à les reporter. Il a toutefois autorisé une entreprise à détruire une partie de cette zone forestière située en terre publique afin de construire un chemin lui permettant d'atteindre des chantiers de coupe situés aux limites de la forêt ancienne. Ce chemin a été construit au cours des dernières semaines. Les photos des travaux montre une route en pleine forêt, de la machinerie industrielle et plusieurs empilements d'arbres de différents diamètres. Les citoyens contactés par Le Devoir se sont dit consternés par les impacts sur la forêt et ils affirment que les travaux ont détruit des sentiers pédestres qui étaient reconnus et identifiés par le ministère des Ressources naturelles et des forêts, MRNF. Une plainte a d'ailleurs été soumise au ministère. Québec se défend. Dans une réponse écrite, le MRNF a défendu sa décision. Selon le ministère, le chemin n'aurait pas détruit l'écosystème forestier exceptionnel et il était requis pour assurer l'approvisionnement des usines de transformation du bois de la région. Le MRNF rappelle que, même si le gouvernement doit décider d'ici 2027 si la forêt Grand Bois deviendra une aire protégée, il peut poursuivre des activités de mise en valeur des ressources naturelles, forestières et minières, ainsi que du territoire, pendant l'analyse des projets. Même son de cloche au cabinet du ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui est responsable de mettre en œuvre l'engagement du gouvernement à protéger 30 % du territoire naturel québécois d'ici la fin de la décennie. Par écrit, on explique que, d'ici la fin du processus d'analyse des dossiers soumis dans le cadre de l'appel à projet lancé par Québec pour augmenter la protection de la biodiversité, les entreprises forestières sont en droit de poursuivre leurs activités. Le message est clair. On avance ensemble pour protéger nos milieux naturels tout en respectant la vitalité de nos régions. Selon Louis Bélanger, qui a lui-même étudié le secteur de la forêt Grandbois, l'autorisation du chemin est contraire à la volonté de protéger un tel écosystème, devenu rarissime au Québec. Le ministère a pris une position idéologique et inflexible en décidant que tous les territoires où il y a des projets d'aires protégées, même s'ils sont en analyse, ne sont pas protégés en attendant une décision. Laisse-t-il tomber? Il estime d'ailleurs que le MRNF contrevient à sa propre stratégie d'aménagement durable des forêts qui prévoit qu'il doit contribuer au développement et à la gestion durable d'un réseau d'aires protégées efficace et représentatif de la biodiversité. Au fil des ans, plusieurs projets de protection du territoire ont été bloqués afin de préserver l'accès à des zones de coupe forestière en terre publique. Couper de belles forêts. De telles coupes ont débuté récemment dans deux chantiers situés aux limites de la forêt Grandbois sur un territoire qui avait été soumis dans le cadre de l'appel à projet pour devenir la réserve de biodiversité Mekinac. Le projet a été refusé par la MRC afin de préserver l'accès à l'industrie. Québec a refusé d'intervenir dans le dossier. M. Bélanger précise que les forêts qui seront en partie détruites étaient des milieux naturels importants. Ce sont de belles forêts de la même qualité qu'on retrouve dans le parc national de la Mauricie, qui est un territoire protégé. Il rappelle du même souffle que le volume de bois qui peut être coupé chaque année dans le secteur représente environ 0,1% de la capacité de l'unité d'aménagement de la région et 0,03% de la possibilité forestière annuelle de la Mauricie. Ce qui se passe dans Mekinac est le reflet d'une situation gangrenée à la grandeur du Québec, alors que le MRNF finit toujours par imposer sa vision et obtenir des concessions contraires aux autres objectifs gouvernementaux, déplore le directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Québec, Alain Branchaud. L'organisme avait été mandaté en 2024 par le gouvernement afin de diffuser l'appel à projet et de mobiliser et d'accompagner les porteurs de projets. C'était un chemin forestier détruit en partie une forêt ancienne qui pourrait devenir une aire protégée. Un texte d'Alexandre Shields paru le 18 février 2026 dans Le Devoir.
Nommer notre époque, un mot à la fois. Un texte d'Éric Bergeron, publié le 13 janvier 2026 dans La Voix acadienne. La langue française n'est pas figée. Elle évolue selon les besoins et celles et ceux qui l'emploient. Elle prend souvent racine dans le langage courant avant de se formaliser avec le temps. Des dictionnaires comme le Petit Robert, le Petit Larousse jouent un rôle déterminant dans ce processus en observant l'usage réel avant d'enregistrer officiellement les nouveaux termes. Cette année encore, notre langue s'est enrichie d'une myriade de nouveaux mots venus préciser les enjeux de notre époque. Les préoccupations sociales, environnementales et culturelles ont mené le bal. Certains, plutôt surprenants, sont venus s'ajouter à d'autres qui se sont imposés de façon tout à fait naturelle, tant ils font déjà partie du quotidien. Il est intéressant de noter que le Petit Larousse et le Petit Robert ont tous deux adopté environ 150 nouveaux mots cette année. Cependant, leurs listes ne sont pas identiques et reflètent les choix propres à chaque équipe éditoriale. En voici un aperçu. Agrivoltaïsme. Production d'électricité solaire sur des terres agricoles en combinant culture et panneaux photovoltaïques. Dictionnaire Le Petit Robert. Périménopause. Période de transition hormonale précédant la ménopause, marquée par des cycles irréguliers et divers symptômes. Dictionnaire Le Petit Larousse. Débunker. Personne qui démontre ou réfute des informations fausses ou trompeuses, souvent en ligne. Dictionnaire Le Petit Robert. Micromobilité. Ensemble des moyens de transport légers, souvent électriques, utilisés pour de courts déplacements urbains. Dictionnaire Le Petit Larousse. Climaticide, qui contribue gravement au dérèglement climatique, notamment par des émissions massives de gaz à effet de serre. Dictionnaire Le Petit Robert. Précarité menstruelle, situation dans laquelle une personne n'a pas accès aux protections menstruelles pour des raisons financières ou sociales. Dictionnaire Le Petit Larousse. Deepfake. Contenu audio ou vidéo truqué à l'aide de l'intelligence artificielle, donnant une illusion de réalité. Dictionnaire Le Petit Robert. Haptique. Relatif au toucher ou aux technologies qui simulent des sensations tactiles. Dictionnaire Le Petit Larousse. Démission silencieuse. Fait de se limiter strictement à ses tâches professionnelles sans engagement excessif. Dictionnaire Le Petit Robert. Ban Bao. Petit pain vietnamien cuit à la vapeur, généralement farci de viande ou de légumes. Dictionnaire Le Petit Larousse. Urbex. Pratique consistant à explorer des lieux urbains abandonnés ou inaccessibles au public. Dictionnaire Le Petit Robert. Onigiri. Boulette de riz japonaise, souvent garnie et enveloppée d'algues. Dictionnaire Le Petit Larousse. C'était « Nommer notre époque, un mot à la fois ». Un texte d'Éric Bergeron, publié le 13 janvier 2026 dans La Voix acadienne.